dit-il. Alors je dis, visage impassible et glacé. Oui, dit-elle, je suis jalouse de Flora. Tout à coup, j'entendis s'éveiller ma voisine. Tout rayonne, tout lui, tout aime, tout est doux. Et tout bas murmurer, c'est moi. Mes yeux noirs avec tes yeux bleus. Elle sait tout, elle est nourrie, cette entailleule. Que sais-tu d'elle? Rien, son nom c'est tout, Nella. Et Dieu, avec ce qui restait des femmes, fit les roses.
Incipit, recueilli par Pierre-Henri pour l'ouverture de Hugo Symphonie.
Maintenant, je vais revenir aux contemplations. Et lire trois poèmes autour de la mort de sa fille, Léopoldine. Oh, je fus comme fou dans le premier moment. Hélas, et je pleurais 3 jours amèrement. Vous tous à qui Dieu prie votre chère espérance, père, mère dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé? Je voulais me briser le front sur le pavé. Puis je me révoltais par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible. Et je n'y croyais pas et je m'écriais non. Est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom, qui font que dans le cœur le désespoir se lève? Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible enfin qu'elle fût morte et que j'allais la voir entrer par cette porte. Oh, que de fois j'ai dit, silence, elle a parlé. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient, laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison, sans doute. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père. Prenez ma plume, ouvrez mes livres, s'asseyez sur mon lit, dérangez mes papiers et riez. » Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue et tout en écrivant. Parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire, mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu. Et dire qu'elle est morte, hélas que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. On vit, on parle, on a le ciel et les nuages sur la tête, on se plaît aux livres des vieux sages. On lit Virgile et Dante, on va joyeusement en voiture publique à quelque endroit charmant, en riant aux éclats de l'auberge et du gîte. Le regard d'une femme en passant vous agite. On aime, on est aimé, bonheur qui manque au roi. On écoute le chant des oiseaux dans les bois. Le matin, on s'éveille et toute une famille vous embrasse, une mère, une sœur, une fille. On déjeune en lisant son journal. Tout le jour, on mêle à sa pensée espoir, travail, amour. La vie arrive avec ses passions troublées. On jette sa parole aux sombres assemblées. Devant le but qu'on veut et le sort qui vous prend, on se sent faible et fort, on est petit et grand. On est flot dans la foule, âme dans la tempête. Tout vient et passe, on est en deuil, on est en fête. On arrive, on recule, on lutte avec effort. Puis le vaste et profond silence de la mort. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs.
La légende des siècles, Emrio.
Charlemagne, empereur à la barbe fleurie, revient d'Espagne, il a le cœur triste, il s'écrie « Roncevaux, Roncevaux, ô traître Ganelon !» Car son neveu Roland est mort dans ce vallon, avec les 12 pères et toute son armée. Le laboureur des monts qui vit sous la ramée est rentré chez lui, grave et calme, avec son chien. Il a baisé sa femme au front et dit « C'est bien !» Il a lavé sa trompe et son arc aux fontaines, et les os des héros blanchissent dans les plaines. Le bon roi Charles est plein de douleur et d'ennui. Son cheval syrien est triste comme lui. Il pleure. L'empereur pleure de la souffrance d'avoir perdu ses preux, ses 12 pairs de France, ses meilleurs chevaliers qui n'étaient jamais là, et son neveu Roland, et la bataille est là. Et surtout de songer, lui, vainqueur des Espagnes, qu'on fera des chansons dans toutes ces montagnes sur ces guerriers tombés devant des paysans et qu'on en parlera plus de 400 ans. Cependant, il chemine. Au bout de 3 journées, il arrive au sommet des Hautes Pyrénées. Là, dans l'espace immense, il regarde en rêvant. Et sur une montagne, au loin et bien avant, dans les terres, il voit une ville très forte, ceinte de murs avec 2 tours à chaque porte. Elle offre à qui la voit ainsi dans le lointain 30 maîtresses tours avec des toits d'étain et des machicoulis de forme sarrasine, encore tout ruisselant de poix et de résine. Au centre est un donjon si beau qu'en vérité, on ne le peindrait pas dans tout un jour d'été. Ses créneaux sont scellés de plomb, chaque embrasure cache un archer dont l'œil toujours guette et mesure. Ses gargouilles font peur. À son faîte vermeil rayonne un diamant gros comme le soleil, qu'on ne peut regarder fixement de 3 lieues. Sur la gauche est la mer aux grandes ondes bleues, qui jusqu'à cette ville apporte ses dromons. Charles, en voyant ses tours, tressaille sur les monts. Mon sage conseiller Nême, duc de Bavière, quelle est cette cité près de cette rivière? Qui la tient, la peut dire unique sous les cieux? Or, je suis triste, et c'est le cas d'être joyeux. Oui, dussé-je rester 14 ans dans ces plaines, ô gens de guerre, archers, compagnons, capitaines, mes enfants, mes lions, Saint-Denis, mes témoins, que j'aurai cette ville avant d'aller plus loin. Le vieux Nême frissonne à ce qu'il vient d'entendre. Alors achetez-la, car nul ne peut la prendre. Elle a pour se défendre, outre ses béarnais, 20 000 Turcs ayant chacun double harnais. Quant à nous, autrefois, c'est vrai, nous triomphâmes. Mais aujourd'hui, vos preux ne valent pas des femmes. Ils sont tous harassés du gîte envieux. Et je suis le moins là, moi qui suis le plus vieux. Sire, je parle franc et je ne farde guère. D'ailleurs, nous n'avons point de machine de guerre. Les chevaux sont rendus, les gens rassasiés. Je trouve qu'il est temps que vous vous reposiez. Et je dis qu'il faut être aussi fou que vous l'êtes pour attaquer ces tours avec des arbalètes. L'empereur répondit au duc avec bonté, « Duc, Tu ne m'as pas dit le nom de la cité. On peut bien oublier quelque chose à mon âge. Messire, ayez pitié de votre baronnage. Nous voulons nos foyers, nos logis, nos amours. C'est ne jouir jamais que conquérir toujours. Nous venons d'attaquer bien des provinces, sire, et nous en avons pris de quoi doubler l'Empire. Ces assiégés riraient de vous du haut des tours. Ils ont pour recevoir sûrement des secours, si quelque insensé vient heurter leur citadelle, 3 souterrains creusés par les Turcs infidèles, et qui vont, le premier dans le Val de Bastan, le second à Bordeaux, le dernier chez Satan. L'empereur, souriant, reprit d'un air tranquille, « Duc, tu ne m'as pas dit le nom de cette ville. » C'est Narbonne. Narbonne est belle, dit le roi, et je l'aurai. Je n'ai jamais vu sur ma foi ces belles filles-là sans leur rire au passage et me piquer un peu les doigts à leur corsage. Alors, voyant passer un comte de Haut-Lieu et qu'on appelait Dreux de Montdidier, « Pardieu, comte, ce bon duc Nemes expire de vieillesse. Mais vous, amis, prenez Narbonne et je vous laisse tout le pays d'ici jusqu'à Montpellier. » Car vous êtes le fils d'un gentil chevalier. Votre oncle que j'estime était abbé de Chelles. Vous-même êtes vaillant, donc, beau sire, aux échelles, l'assaut. Sire empereur, répondit Montdidier, je ne suis désormais bon qu'à congédier. J'ai trop porté aubert, maillot, casque et salade. J'ai besoin de mon lit car je suis fort malade. J'ai la fièvre. Un ulcère aux jambes m'est venu et voilà plus d'un an que je n'ai couché nu. Gardez tout ce pays, car je n'en ai que faire. L'empereur ne montra ni trouble ni colère. Il chercha du regard Hugo de Cotentin. Ce seigneur était brave et comte palatin. Hugues, dit-il, je suis aise de vous apprendre que Narbonne est à vous, vous n'avez qu'à l'apprendre. Hugo de Cotentin salua l'empereur. Sire, c'est un manant heureux qu'un laboureur. Le drôle gratte un peu la terre brune ou rouge, et quand sa tâche est faite, il rentre dans son bouge. Moi, j'ai vaincu Tryphon, Thessalus, Gaïfère. Par le chaud, par le froid, je suis vêtu de fer. Au point du jour, j'entends le clairon pour Antienne. Je n'ai plus à ma selle une boucle qui tienne. Voilà longtemps que j'ai pour unique destin de m'endormir fort tard pour m'éveiller matin, de recevoir des coups pour vous et pour les vôtres. Je suis très fatigué, donnez Narbonne à d'autres. Le roi laissa tomber sa tête sur son sein. Chacun songeait, poussant du coude son voisin. Pourtant Charles, appelant Richer de Normandie, « Vous êtes grand seigneur et de race hardie. Duc, ne voulez-vous pas prendre Narbonne un peu ?»« Empereur, je suis duc par la grâce de Dieu. Ces aventures-là vont aux gens de fortune. Quand on a ma duché, roi Charles, on n'en veut qu'une. » L'empereur se tourna vers le comte de Gand. Tu mis jadis à bas, Maugiron le brigand. Le jour où tu naquis sur la plage marine, l'audace avec le souffle entra dans ta poitrine. Bavon, ta mère était de fort bonne maison. Jamais on ne t'a fait choir que par trahison. Ton âme après la chute était encore meilleure. Je me rappellerai jusqu'à ma dernière heure l'air joyeux qui parut dans ton œil hasardeux un jour que nous étions en marche seuls tous deux et que nous entendions dans les plaines voisines le cliquetis confus des lances sarrasines. Le péril fut toujours de toi bien accueilli. Comte, eh bien, prends Narbonne et je t'en fais bailli. Sire, dit le Gantois, je voudrais être en Flandre. J'ai faim, mes gens ont faim. Nous venons d'entreprendre une guerre à travers un pays endiablé. Nous y mangions, au lieu de farine de blé, des rats et des souris, et pour toute ribote, nous avons dévoré beaucoup de vieilles bottes. Et puis, votre soleil d'Espagne m'a hâlé tellement que je suis tout noir et tout brûlé. Et quand je reviendrai de ce ciel insalubre, dans ma ville de Gand, avec ce front lugubre, ma femme, qui déjà peut être à quelque amant, me prendra pour un autre et non pour un flamand. J'ai hâte d'aller voir là-bas ce qui se passe. Quand vous me donneriez pour prendre cette place, tout l'or de Salomon et tout l'or de Pépin, non, je m'en vais en Flandre où l'on mange du pain. « C'est bon flamand, dit Charles, il faut que cela mange. » Il reprit. « Ça, je suis stupide. Il est étrange que je cherche un preneur de ville ayant ici mon vieil oiseau de proie, Eustache de Nancy.
Eustache à moi. Tu vois, cette Narbonne est rude. Elle a 30 châteaux, 3 fossés et l'air prude. À chaque porte un camp, et par Dieu j'oubliais, là-bas, 6 grosses tours en pierre de lier. Ces douves-là nous font parfois si grise mine qu'il faut recommencer à l'heure où l'on termine. Et que la ville prise, on échoue au donjon. Mais qu'importe, es-tu pas le grand aigle ? Un pigeon ! Un moineau, dit Eustache ! Un pinson dans la haie ! Roi, je me sauve au nid, mes gens veulent leur paix. Or, je n'ai pas le sou. Sur ce, pas un garçon qui me fasse crédit d'un coup d'estrabasson. Leurs yeux me donneront à peine une étincelle par ce quin qu'ils verront sortir de l'escarcelle. Tas de gueux ! Quant à moi, je suis très ennuyé. Mon vieux poing tout sanglant n'est jamais essuyé. Je suis moulu. Car, sire, on s'échine à la guerre. On arrive à haïr ce qu'on aimait naguère. Le danger qu'on voyait tout rose, on le voit noir. On s'use, on se disloque, on finit par avoir la goutte au rein, l'entorse au pied, aux mains l'ampoule. Si bien qu'étant parti vautour, on revient poule. Je désire un bonnet de nuit, foin du cimier. J'ai tant de gloire, ô roi, que j'aspire au fumier. Le bon cheval du roi frappait du pied la terre, comme s'il comprenait. Sur le mont solitaire, les nuages passaient. Gérard de Roussillon était à quelques pas avec son bataillon. Charlemagne, en riant, vint à lui. Vaillant homme, vous êtes dur et fort comme un Romain de Rome. Vous empoignez le pieu sans regarder au clou. Gentilhomme de bien, cette ville est à vous. Gérard de Roussillon regarda d'un air sombre son vieux gilet de fer rouillé, le petit nombre de ses soldats marchant tristement devant eux, sa bannière trouée et son cheval boiteux. « Tu rêves, dit le roi, comme un clerc en Sorbonne. Faut-il donc tant songer pour accepter Narbonne ?»« Roi, dit Gérard, merci, j'ai des terres ailleurs. » Voilà comme parlaient tous ces fiers batailleurs pendant que les torrents mugissaient sous les chaînes. L'empereur fit le tour de tous ses capitaines. Il appela les plus hardis, les plus fougueux, Eudes, duc de Bourgogne, Albert de Périgueux, Samo que la légende aujourd'hui divinise, Garin qui, se trouvant un beau jour à Venise, emporta sur son dos le lion de Saint-Marc, Ernaud de Boléande, Augier de Danemark, Roger enfin, grande âme au péril toujours prête. Ils refusèrent tous. Alors, levant la tête, se dressant tout debout sur ses grands étriers, tirant sa large épée aux éclairs meurtriers, avec un âpre accent plein de sourdes huées, pâle, effrayant, pareil à l'aigle des nuées, terrassant du regard son camp épouvanté, l'invincible empereur s'écria : Lâcheté ! Ô comte palatin tombé dans ses vallées, ô géant qu'on voyait debout dans ses mêlées, devant qui Satan même aurait crié merci. Olivier et Roland, que n'êtes-vous ici ? Si vous étiez vivant, vous prendriez Narbonne, paladin. Vous, du moins, votre épée était bonne. Votre cœur était haut, vous ne marchandiez pas. Vous alliez en avant sans compter tous vos pas. Ô compagnon couché dans la tombe profonde, si vous étiez vivant, nous prendrions le monde. Grand Dieu, que voulez-vous que je fasse à présent ? Mes yeux cherchent en vain un brave au cœur puissant et vont tout effrayés de nos immenses tâches, de ceux-là qui sont morts à ceux-ci qui sont lâches. Je ne sais point comment on venge des affronts, je les jette à mes pieds, je n'en veux pas. Baron, vous qui m'avez suivi jusqu'à cette montagne, Normand, Lorrain, marquis des marches d'Allemagne, Poitevin, Bourguignon, gens du pays pisan, Breton, Picard, Flamand, Français, allez-vous-en. Guerrier, allez-vous-en d'auprès de ma personne. Des camps où l'on entend mon noir clairon qui sonne. Rentrez dans vos logis, allez-vous-en chez vous, allez-vous-en d'ici, car je vous chasse tous. Je ne veux plus de vous. Retournez chez vos femmes. Allez vivre caché, prudent, content, infâme. C'est ainsi qu'on arrive à l'âge d'un aïeul. Pour moi, j'assiégerai Narbonne à moi tout seul. Je reste ici rempli de joie et d'espérance. Et quand vous serez tous dans notre douce France, ô vainqueurs des Saxons et des Aragonais, quand vous vous chaufferez les pieds à vos chenets, tournant le dos aux jours de guerre et d'alarme, si l'on vous dit, songeant à tous nos grands faits d'armes qui remplirent longtemps la terre de terreur, mais où donc avez-vous quitté votre empereur? Vous répondrez, baissant les yeux vers la muraille, nous nous sommes enfuis le jour d'une bataille, si vite et si tremblant et d'un pas si pressé que nous ne savons plus où nous l'avons laissé. Ainsi, Charles de France, appelé Charlemagne, exarque de Ravenne, empereur d'Allemagne, parlait dans la montagne avec sa grande voix, et les pâtres lointains épars au fond des bois croyaient en l'entendant que c'était le tonnerre. Les barons consternés fixaient leurs yeux à terre. Soudain, comme chacun demeurait interdit, un jeune homme bien fait sortit des rangs et dit: que monsieur Saint-Denis garde le roi de France. L'empereur fut surpris de ce ton d'assurance. Il regarda celui qui s'avançait et vit, comme le roi Saoul lorsqu'apparut David, une espèce d'enfant au teint rose, aux mains blanches, que d'abord les soudards dont l'estoc bat les hanches prirent pour une fille habillée en garçon. Doux, frêle, confiant, serein, sans écusson et sans panache, ayant sous ses habits de serge l'air grave d'un gendarme et l'œil froid d'une vierge. « Toi, que veux-tu ? » dit Charles, « et qu'est-ce qui te meut ? » ?»« Je viens vous demander ce dont pas un ne veut. L'honneur d'être mon roi si Dieu ne m'abandonne, l'homme dont on dira, c'est lui qui prit Narbonne. » L'enfant parlait ainsi d'un air de loyauté, regardant tout le monde avec simplicité. Le gantois, dont le front se relevait très vite, se mit à rire et dit au reître de sa suite, « C'est Emrio, le petit compagnon !»« Emrio, reprit le roi, dis-nous ton nom. »« Emery, je suis pauvre autant qu'un pauvre moine. J'ai 20 ans, je n'ai point de paille et point d'avoine. Je sais lire en latin et je suis bachelier. Voilà tout, sire. Il plut au sort de m'oublier lorsqu'il distribua les fiefs héréditaires. De liards couvriraient fort bien toutes mes terres. Mais tout le grand ciel bleu n'emplirait pas mon cœur. J'entrerai dans Narbonne et je serai vainqueur. Après, je châtirai les railleurs, s'il en reste. » Charles, plus rayonnant que l'archange céleste, s'écria: « Tu seras pour ce propos hautain, Emery de Narbonne et comte palatin, et l'on te parlera d'une façon civile. Va, fils, le lendemain, Emery prit la ville. »
Avez-vous lu Victor Hugo ? Une production du Théâtre National de Chaillot et de France Culture. Aujourd'hui, l'anthologie fragmentaire de Florence Delay, avec la participation de Marie-Étienne et Antoine Vitesse.
Cette émission a été diffusée la première fois le 29 avril 1985 sur France Culture. À suivre.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2012, France Culture saluait les 150 ans de la publication des Misérables par une adaptation radiophonique en 10 épisodes, dont nous allons écouter ici les deux premiers. Du premier tome du roman, il ne conserve que les événements indispensables au récit contenus dans les 4 premiers livres et ignore de leurs chapitres les éclairages historiques, les passages que l'on dira philosophiques et autres digressions. 10 émissions de 30 minutes ne pouvaient contenir le torrent que sont Les Misérables. Les deux premiers numéros nous mènent de Digne en 1815, où Monseigneur Myriel accueille Jean Valjean libéré du bagne de Toulon, à Montfermeil, quelques années plus tard, à l'auberge du sergent de Waterloo, où Fantine confie Cosette au Thénardier. Le début d'une histoire que l'on connaît tous et que l'on ne se lasse pas de relire et de réentendre raconter. Le début avec à la clé, chez beaucoup d'entre nous peut-être, toujours la même question. Pourquoi Jean Valjean devient-il voleur, au fond véritablement pour la première fois, chez celui qui lui a ouvert sa porte, qui lui aurait donné et qui lui donnera ce qu'il a volé? Et ces autres questions encore, pourquoi Valjean met-il le pied sur la pièce de 40 sous de Petit Gervais et qui est-il à ce moment-là? Les Misérables, premier et deuxième épisode d'une série de 10, diffusés respectivement les 24 et 25 décembre 2012 sur France Culture.
Les Misérables, de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Premier épisode. En 1804, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était curé de Brignoles et il vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens monsieur le cardinal Fesch. Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé qui attendait dans l'antichambre se trouva sur le passage de Sa Majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna.
Quel est cet homme qui me regarde?
Sire, vous regardez un bonhomme et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter.
L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé et, quelque temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne. Il arriva à Digne accompagné d'une vieille fille, Mademoiselle Baptistine, qui était sa sœur et qui avait 10 ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante appelée Madame Magloire. Pour donner une idée du ménage intérieur de Monsieur l'évêque de Digne et de la façon dont ces deux saintes filles subordonnaient leurs actions aux intentions de l'évêque, nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici une lettre de Mademoiselle Baptistine à Madame la Vicomtesse de Boischevron, son amie d'enfance.
Ma bonne madame, pas un jour ne se passe sans que nous parlions de vous. Je suis toujours bien heureuse, mon frère est si bon. Il donne tout ce qu'il a aux indigents, aux malades. Nous sommes très gênés. Le pays est dur l'hiver et il faut bien faire quelque chose pour ceux qui manquent. Nous sommes à peu près chauffés et éclairés. Vous voyez que ce sont de grandes douceurs. Figurez-vous que la porte de la maison n'est jamais fermée. Entre qui veut, et l'on est tout de suite chez mon frère. Il ne craint rien, même la nuit. C'est là sa bravoure à lui, comme il dit. L'an dernier, il est allé tout seul dans un pays de voleurs. À son retour, il n'avait rien eu. On le croyait mort. Il se portait bien. Et il a dit « Voilà comment on m'a volé ». Et il a ouvert une malle pleine de tous les bijoux de la cathédrale d'Embrun que les voleurs lui avaient donnés.
À une époque un peu postérieure à la date de la lettre, il fit une chose, à en croire toute la ville, plus risquée encore que sa promenade à travers les montagnes des bandits. Il y avait près de Digne, dans la campagne, un homme qui vivait solitaire. Cet homme, disons tout de suite le gros mot, était un conventionnel. Il se nommait G. On parlait de lui avec une sorte d'horreur. Un conventionnel, vous figurez-vous cela, cela existait du temps qu'on se tutoyait et qu'on disait « citoyen ». Cet homme était à peu près un monstre. Il n'avait pas voté la mort du roi, mais presque, c'était un quasi-régicide. Pourtant, l'évêque songeait
« Il y a là une âme qui est seule, je lui dois ma visite ».
Un jour, Le bruit se répandit dans la ville que le vieux scélérat se mourait. L'évêque prit son bâton et partit. Le soleil déclinait quand l'évêque arriva à l'endroit excommunié. C'était une cabane toute basse avec une treille clouée à la façade. Devant la porte, dans une vieille chaise à roulettes, fauteuil du paysan, il y avait un homme en cheveux blancs qui souriait au soleil.
Depuis que je suis ici, voilà la première fois qu'on entre chez moi. Qui êtes-vous, monsieur ?
Je me nomme Bienvenue Myriel.
J'ai entendu prononcer ce nom. Est-ce vous que le peuple appelle Monseigneur Bienvenu ?
C'est moi.
En ce cas, vous êtes mon évêque ?
Un peu. Je suis satisfait de voir qu'on m'avait trompé. Vous ne me semblez certes pas malade.
Monsieur, je vais guérir. Je mourrai dans 3 heures. Je suis un peu médecin. Je sais de quelle façon la dernière heure vient. Le soleil est beau, n'est-ce pas ? Je me suis fait rouler dehors pour jeter un dernier coup d'œil sur les choses. Vous faites bien de venir regarder un homme qui va mourir. Finir est une affaire simple. On n'a pas besoin du matin pour cela. Je mourrai à la belle étoile.
Je vous félicite. Vous n'avez toujours pas voté la mort du roi.
Ne me félicitez pas trop, monsieur.
Que voulez-vous dire ?
Je ne me crois pas le droit de tuer un homme. J'ai voté la fin du tyran. C'est-à-dire la fin de la prostitution pour la femme, la fin de l'esclavage pour l'homme, la fin de la nuit pour l'enfant. En votant la République, j'ai voté la fraternité, la concorde, l'aurore. J'ai aidé à la chute des préjugés et des erreurs. Nous avons fait tomber le vieux monde, nous autres. Et le vieux monde, vase des misères, en se renversant sur le genre humain, est devenu une urne de joie.
Joie mêlée.
Vous pourriez dire joie troublée. Et aujourd'hui, après ce fatal retour du passé qu'on nomme 1814, joie disparue. Hélas, l'œuvre a été incomplète, j'en conviens.
Vous avez démoli. Démolir peut être utile, mais je me défie d'une démolition compliquée de colère.
Le droit a sa colère, monsieur l'évêque. Et la colère du droit est un élément du progrès. N'importe. Et quoi qu'on en dise, la Révolution française est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ. Incomplète, soit, mais sublime. Elle a dégagé toutes les inconnues sociales. Elle a adouci les esprits, elle a calmé, apaisé, éclairé. Elle a fait couler sur la terre des flots de civilisation. Elle a été bonne. La Révolution française, c'est le sacre de l'humanité.
93.
Ah, nous y voilà. 93, j'attendais ce mot-là. Un nuage s'est formé pendant 1500 ans et il a crevé. Vous faites le procès au coup de tonnerre.
Le juge parle au nom de la justice. Le prêtre parle au nom de la pitié, qui n'est autre chose qu'une justice plus élevée. Un coup de tonnerre ne doit pas se tromper.
Je pleurerai sur les enfants des rois avec vous, pourvu que vous pleuriez avec moi sur les petits du peuple.
Je pleure sur tous.
Également. Et si la balance doit pencher, que ce soit du côté du peuple. Il y a plus longtemps qu'il souffre.
Le progrès doit croire en Dieu. Le bien ne peut pas avoir de serviteur impie. C'est un mauvais conducteur du genre humain que celui qui est athée.
Le vieux représentant du peuple ne répondit pas. Il eut un tremblement. Il regarda le ciel et une larme germa lentement dans ce regard.
Oh, toi, oh idéal, toi seul existes. L'infini est, il est là. Si l'infini n'avait pas de moi, le moi serait sa borne. Il ne serait pas infini. En d'autres termes, il ne serait pas. Or, il est. Donc, il y a un moi. Ce moi, c'est l'infini. C'est Dieu.
Le mourant avait prononcé ces dernières paroles d'une voix haute et avec le frémissement de l'extase, comme s'il voyait quelqu'un.
Cette heure est celle de Dieu. Ne trouvez-vous pas qu'il serait regrettable que nous nous fussions rencontrés en vain?
Monsieur l'évêque, j'ai secouru les opprimés. J'ai soulagé les souffrants. J'ai déchiré la nappe de l'autel, c'est vrai. Mais c'était pour panser les blessures de la patrie. Après quoi, j'ai été chassé, traqué, raillé, maudit, proscrit. Je vais mourir. Qu'est-ce que vous venez me demander ?
Votre bénédiction.
Et l'évêque s'agenouilla. Quand il releva la tête, la face du conventionnel était devenue auguste. Il venait d'expirer. L'évêque rentra chez lui, profondément absorbé dans on ne sait quelle pensée. Il passa toute la nuit en prière. On risquerait fort de se tromper si l'on concluait de là que Monseigneur Bienvenu fût un évêque philosophique ou un curé patriote. Sa rencontre lui laissa une sorte d'étonnement qu'il rendit plus doux encore, voilà tout. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, une heure avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière de cuir rabattue cachait en partie son visage brûlé par le soleil et le hâle et ruisselant de sueur. Il avait un pantalon de coutil bleu, râpé, une vieille blouse grise en haillons, sur le dos un sac de soldat fort plein et à la main un énorme bâton noueux. Il se dirigea vers une auberge qui était la meilleure du pays. L'hôte, entendant la porte s'ouvrir et entrer un nouveau venu, dit sans lever les yeux de ses fourneaux
« Que veut monsieur ?»«
Manger et coucher. » »«
Rien de plus facile ?»
L'hôte tourna la tête, embrassa d'un seul coup d'œil l'ensemble du voyageur et ajouta
« En payant ?»«
J'ai de l'argent. » »«
En ce cas, on est à vous. »
Pendant que le nouveau venu se chauffait, dos tourné, le digne aubergiste écrivit une ligne et remit le chiffon de papier à un marmiton qui partit en courant dans la direction de la mairie. Le voyageur n'avait rien vu de tout cela.
Dîne-t-on bientôt ?
Tout à l'heure.
L'enfant revint. Il rapportait le papier. L'hôte le déplia avec empressement. Il fit un pas vers le voyageur.
Monsieur, je ne puis vous recevoir.
Je suis à l'auberge, j'ai faim et je reste.
Voulez-vous que je vous dise votre nom ? Vous vous appelez Jean Valjean. Allez-vous-en.
Ce soir-là, monsieur l'évêque de Digne était resté assez tard enfermé dans sa chambre. Madame Magloire entra, selon son habitude, pour prendre l'argenterie dans le placard près du lit. Un moment après, l'évêque se leva de sa table et entra dans la salle à manger. Madame Magloire entretenait mademoiselle d'un sujet qui lui était familier, le loquet de la porte d'entrée. Elle avait entendu dire qu'un rôdeur de mauvaise mine serait arrivé, qu'il devait être quelque part dans la ville.
Il se pourrait qu'il y ait de méchantes rencontres pour ceux qui s'aviseraient de rentrer tard chez eux cette nuit. La police est bien mal faite du reste. Attendu que monsieur le préfet et monsieur le maire ne s'aiment pas et cherchent à se nuire. Je dis qu'il faut des verrous, ne serait-ce que pour cette nuit.
Oh. Entrez.
L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille.
Voici. Je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. Je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Ce soir, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « frappe là ». J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici ? Êtes-vous une auberge ? J'ai de l'argent. Voulez-vous que je reste ?
Madame Magloire, vous mettrez un couvert en plus.
Voilà mon passeport. Je sais lire, moi, j'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, Jean Valjean, forçat libéré, est resté 19 ans au bagne. 5 ans pour vol avec effraction, 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà. Tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me donner à manger, à coucher ? Avez-vous une écurie ?
Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant.
Vrai ? Vous me gardez ? Vous ne me tutoyez pas ? Va-t'en chien, qu'on me dit toujours. Vous êtes un brave homme. Vous êtes aubergiste, n'est-ce pas ?
Non, je suis un prêtre qui demeure ici.
Ah, c'est vrai que je suis bête. Je n'avais pas vu votre calotte. Vous êtes humain, monsieur le curé. Vous n'avez pas de mépris. Vous n'avez pas besoin que je paye ?
Non. Gardez votre argent. Combien avez-vous ?
109 francs et 15 sous.
Et combien de temps avez-vous mis à gagner cela ?
19 ans.
19 ans ? Madame Magloire, mettez ce couvert le plus près possible du feu. Le vent de la nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir froid, monsieur.
Chaque fois qu'il disait ce mot, monsieur, avec sa voix doucement grave, le visage de l'homme s'illuminait. Monsieur à un forçat, c'est un verre d'eau à un naufragé de la Méduse.
Voici une lampe qui éclaire bien mal.
Madame Magloire comprit, et elle alla chercher sur la cheminée de la chambre à coucher de Monseigneur les 2 chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table, tout allumés.
Monsieur le curé, vous êtes bon. Vous ne me méprisez pas. Vous me recevez chez vous ?
Ce n'est pas ici ma maison, mais la maison de Jésus-Christ. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom ? D'ailleurs, avant que vous ne me le disiez, vous en avez un que je savais.
Vrai ? Vous saviez comment je m'appelle ?
Oui, vous vous appelez mon frère.
Comme 2 heures du matin sonnaient à l'horloge de la cathédrale, Jean Valjean se réveilla. Il ne put se rendormir et il se mit à penser. Il avait une sorte de va-et-vient obscur dans le cerveau. Ses souvenirs anciens et ses souvenirs immédiats y flottaient pêle-mêle. Beaucoup de pensées lui venaient, mais il y en avait une qui se représentait continuellement et qui chassait toutes les autres. Il avait remarqué les 6 couverts en argent et la grande cuillère que Madame Magloire avait posée sur la table. À l'instant où il avait traversé la chambre d'à côté, la vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit. Jean Valjean écouta. Aucun bruit. Il poussa la porte. La chambre était dans un calme parfait. il avança avec précaution. Au moment où il s'arrêta en face du lit, un rayon de lune vint éclairer subitement le visage pâle de l'évêque. Il dormait paisiblement. Toute sa face s'illuminait d'une vague expression de satisfaction, d'espérance et de béatitude. Jean Valjean n'avait jamais rien vu de pareil. Cette confiance l'épouvantait. Tout à coup, il ouvrit le placard, prit le panier d'argenterie, gagna la porte, rentra dans l'oratoire, enjamba l'appui du rez-de-chaussée, mit l'argenterie dans son sac, jeta le panier, franchit le jardin, sauta par-dessus le mur comme un tigre et s'enfuit. Le lendemain, au soleil levant, Monseigneur Bienvenu se promenait dans son jardin.
Monseigneur ! Votre grandeur sait-elle où est le panier d'argenterie ?
Le voilà.
Très bien, rien dedans. Et l'argenterie ?
C'est donc l'argenterie qui vous occupe ? Je ne sais où elle est.
Un grand bon Dieu, elle est volée. C'est l'homme d'hier soir qui l'a volée.
Et d'abord, cette argenterie était-elle à nous ? Madame Magloire, je détenais à tort et depuis longtemps cette argenterie. Elle était aux pauvres. Qu'est-ce que cet homme ? Un pauvre, évidemment.
Quelques instants après, il déjeunait et il faisait gaiement remarquer à sa sœur qui ne disait rien et à Madame Magloire qui grommelait qu'il n'ait nullement besoin d'une cuillère ni d'une fourchette pour tremper un morceau de pain dans une tasse de lait.
Dans quoi Monseigneur va-t-il manger maintenant ?
Est-ce qu'il n'y a pas des couverts en étain ?
L'étain a une odeur.
Alors, des couverts de fer ?
Le fer a un goût.
Eh bien, des couverts de bois ?
Comme ils allaient se lever de table, on frappa à la porte. Trois hommes en tenaient un quatrième au collet. Les trois hommes étaient des gendarmes. L'autre était Jean Valjean.
Monseigneur ?
Monseigneur.
Silence, c'est Monseigneur l'évêque.
Ah, vous voilà. Eh bien, je suis bien aise de vous voir, Jean Valjean. Mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?
Ce que cet homme disait était donc vrai. Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir, il avait cette argenterie.
Et il vous a dit qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Moi, je vois la chose. C'est une méprise.
Comme cela, nous pouvons le laisser aller ?
Sans doute.
Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse aller ?
Oui, on te laisse. Tu n'entendons pas ?
Mon ami, avant de vous en aller, voici vos chandeliers.
Il alla à la cheminée, prit les deux flambeaux d'argent.
Prenez-les.
Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il les prit machinalement et d'un air égaré.
Maintenant, allez en paix, messieurs. Vous pouvez vous retirer.
Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir.
N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme.
Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit.
Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu.
C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. Premier épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Vigning, Jean Valjean, Michael Lonsdal, Monseigneur Myriel, Thierry Bosque, le conventionnel, Laurence Mercier, Mademoiselle Baptistine, Christine Pignet, Madame Magloire, Étienne Grébeau, l'aubergiste, Jacques Poiterier, le brigadier, et la voix de Myriam Ajar. Musique originale composée par Krishna Levy. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Catherine Dereté et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe. C'était le premier épisode d'une adaptation des Misérables de Victor Hugo, diffusée la première fois le 24 décembre 2012 sur France Culture. Tout de suite, le deuxième épisode.
Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Deuxième épisode.
Jean Valjean, condamné pour le vol d'un pain, est libéré après 20 ans de bagne. En 1815, il arrive à Digne, où seul Monseigneur Myriel, l'évêque de la ville, lui offre l'hospitalité. Mais Jean Valjean s'enfuit en pleine nuit, après lui avoir volé 6 couverts en argent. Le lendemain, les gendarmes le ramènent chez l'évêque, qui l'innocente et lui donne de surcroît 2 chandeliers, en lui souhaitant de devenir un honnête homme. Jean Valjean repart, libre.
Jean Valjean sortit de la ville comme s'il s'échappait. Il se mit à marcher en toute hâte dans les champs et les chemins. Il erra ainsi toute la matinée, n'ayant pas mangé et n'ayant pas faim. Il était en proie à une foule de sensations nouvelles. Il se sentait une sorte de colère, il ne savait pas contre qui. Il n'eût pu dire s'il était touché ou humilié. Il lui venait par moments un attendrissement étrange, qu'il combattait et auquel il opposait l'endurcissement de ses 20 dernières années. Comme le soleil déclinait au couchant, allongeant sur le sol l'ombre du moindre caillou, Jean Valjean était assis derrière un buisson dans une grande plaine rousse absolument déserte. Il vit venir par le sentier un petit savoyard d'une 10aine d'années qui chantait, sa vielle au flanc et sa boîte à marmottes sur le dos. Un de ces doux et gais enfants qui vont de pays en pays, laissant voir leurs genoux par les trous de leurs pantalons. Il jouait aux osselets avec quelques pièces de monnaie, toute sa fortune probablement. L'enfant s'arrêta à côté du buisson sans voir Jean Valjean et fit sauter sa poignée de sous sur le dos de sa main. La pièce de 40 sous lui échappa et vint rouler jusqu'à Jean Valjean qui posa le pied dessus.
Monsieur, ma pièce.
Comment t'appelles-tu?
Petit Gervais, monsieur.
Va-t'en.
Monsieur, rendez-moi ma pièce. Je veux ma pièce de 40 sous.
La tête de Jean Valjean se releva. Il était toujours assis. Ses yeux étaient troubles. Il considérait l'enfant avec une sorte d'étonnement, puis il étendit la main vers son bâton.
Qui est là ?
Moi, monsieur. Petit Gervais, ôtez votre pied, s'il vous plaît.
L'enfant, effaré,
veux-tu bien te sauver ?
Commença à trembler de la tête aux pieds. Et après quelques secondes de stupeur, se mit à s'enfuir sans oser jeter un cri. Au bout de quelques instants, l'enfant avait disparu. Le soleil s'était couché. Jean Valjean tressaillit. Il venait de sentir le froid du soir. Il aperçut la pièce de 40 sous. Ce fut comme une commotion galvanique. Il s'élança convulsivement vers la pièce, la saisit et se mit à regarder tous les points de l'horizon.
Petit Gervais ! Petit Gervais !
La campagne était déserte et morne.
Petit Gervais !
Il n'y avait rien autour de lui qu'une ombre et un silence où sa voix se perdait.
Petit Gervais !
En l'année 1817, cette année que Louis XVIII, avec un certain aplomb royal qui ne manquait pas de fierté, qualifiait la 22e de son règne, Napoléon était à Sainte-Hélène. Il y avait encore des Prussiens en France. Il y avait un an que Madame de Staël était morte. Les grands journaux étaient tout petits, le format était restreint, mais la liberté était grande. Dans des journaux vendus, des journalistes prostitués insultaient les proscrits de 1815. David n'avait plus de talent, Carnot n'avait plus de probité, Soult n'avait gagné aucune bataille, il est vrai que Napoléon n'avait plus de génie. En cette année 1817, 4 jeunes Parisiens firent une bonne farce. Ces jeunes gens étaient insignifiants, ni bons ni mauvais, beaux de ce charmant avril qu'on appelle 20 ans. Naturellement, chacun avait sa maîtresse. Tholomyès avait Fantine, dite la blonde à cause de ses beaux cheveux couleur de soleil. Amourette pour lui, passion pour elle. Les rues du quartier latin, qu'emplit le fourmillement des étudiants et des grisettes, virent le commencement de ce songe. Tholomyès était l'antique étudiant vieux. Il était riche. C'était un viveur de 30 ans mal conservé. Il était ridé et édenté, mais à mesure que sa jeunesse s'éteignait, il allumait sa gaieté. En outre, il doutait supérieurement de toute chose, grande force aux yeux des faibles. Un jour, il prit à part les trois autres et fit un geste d'oracle.
Il y a bien un an que Fantine, Dahlia, Zéphine et Favorite nous demandent de leur faire une surprise. Nous la leur avons promis solennellement. Elles nous en parlent toujours, à moi surtout. En même temps, nos parents nous écrivent, si des deux côtés. Le moment me semble venu. Causons.
Ah, ça c'est une idée.
Le résultat de ces ténèbres fut une éblouissante partie de plaisir qui eut lieu le dimanche suivant, les quatre jeunes gens invitant les quatre jeunes filles. Les quatre couples accomplirent toutes les folies champêtres possibles alors. On entrait dans les vacances et c'était une chaude et claire journée d'été. Les jeunes filles bruissaient et bavardaient comme des fauvettes échappées. C'était un délire. Elles donnaient par moments de petites tapes aux jeunes gens. Ivresse matinale de la vie, adorables années. Toute cette journée-là était d'un bout à l'autre faite d'aurore. Toute la nature semblait avoir congé et rire. Les parterres de Saint-Cloud embaumaient, les branches gesticulaient dans le vent, toute une bohème de papillons s'ébattait dans les aquilées, les trèfles et les folles avoines. Il y avait dans l'auguste parc du roi de France un tas de vagabonds, les oiseaux. Les belles filles font un doux gaspillage d'elles-mêmes. On croit que cela ne finira jamais. Les philosophes, les poètes, les peintres regardent ces extases et ne savent qu'en faire, tant cela les éblouit. On passe à la Seine en bateau, et de Passy à pied, ils gagnèrent la barrière de l'Étoile. De temps en temps, Favourite s'écriait
« Et la surprise ! Je demande la surprise !»
Patience ! Patience !
Les montagnes russes épuisées, on avait songé au dîner. Et le radieux huitain, enfin un peu là, s'était échoué au cabaret Bombarda. Les Champs-Élysées, pleins de soleil et de foule, n'étaient que lumière et poussière. Deux choses dont se compose la gloire. Des tas de faubouriens endimanchés, parfois même fleurdelysés comme les bourgeois, jouaient aux bagues et tournaient sur des chevaux de bois. C'était un temps de paix incontestable et de profonde sécurité royaliste. C'était l'époque où un rapport du préfet de police au roi sur les faubourgs de Paris se terminait par ces lignes.
« Tout bien considéré, sire, il n'y a rien à craindre de ces gens-là. Ils sont insouciants et indolents comme des chats. » Le bas-peuple des provinces est remuant, celui de Paris ne l'est pas. Et le peuple des faubourgs est plus petit qu'avant la Révolution. Il n'est point dangereux. En somme, c'est de la canaille bonne.
Qu'un chat puisse se changer en lion, les préfets de police ne le croient pas possible. Cela est pourtant, et c'est là le miracle du peuple de Paris. Qu'on ne s'y fie pas. Il est propre à toutes sortes de nonchalances, mais quand il y a de la gloire au bout, il est admirable à toute espèce de furie. Donnez-lui une pique, il fera le 10 août. Donnez-lui un fusil, vous aurez Austerlitz. Il est le point d'appui de Napoléon et la ressource de Danton. S'agit-il de la patrie, il s'enrôle. S'agit-il de la liberté, il dépave. Gare, ses cheveux pleins de colère sont épiques. Si l'heure sonne, ce petit homme va se lever et il regardera d'une façon terrible. Et son souffle deviendra tempête. C'est grâce aux faubouriens de Paris que la Révolution, mêlée aux armées, conquiert l'Europe. Mais revenons à nos quatre couples. Le dîner s'achevait. Propos de table et propos d'amour. Les uns sont aussi insaisissables que les autres. Les propos d'amour sont des nuées, les propos de table sont des fumées.
La Jevelle, je t'adore.
Qu'est-ce que tu ferais, Favourite, si je cessais de t'aimer?
Moi? Ah, ne dis pas cela, même pour rire. Si tu cessais de m'aimer, je te sauterai après. Je te grifferai, je te graffignerai, je te ferai arrêter. Oui, je crierai à la garde. Je me gênerai, par exemple.
Tu l'idolâtres ton bien, ton Blachevel. Moi, je le déteste. Il est avare. Dahlia, vois-tu, je suis triste.
Messieurs, pas de hâte.
Le vent m'agace, le vent me décolère.
Mais non, la majesté à la ripaille.
Blachevel est très pingre, on ne sait que manger.
Mangeons avec recueillement.
J'ai le spleen, comme disent les Anglais.
Festinons lentement.
Je vous recommande la modération dans vos désirs. Vrai comme je m'appelle Félix Tholomyès, je parle bien.
Félix, quel joli mot. J'aime ce nom-là. C'est en latin, ça veut dire prospère.
Mes amis, voulez-vous ne sentir aucun aiguillon et vous passer de l'inuptial et braver l'amour? Rien de plus simple.